et pour moi peut-être plus importante que pour vous, pour une raison qui peut vous échapper, mais que je dois expliciter, sans ça, peu de gens comprendront pourquoi je suis assez gêné de parler après Castor. Oui, Castor y a 10 et j'expliquerai pourquoi je l'appelle Castor et tout ça. C'est pas parce que je le connais très bien, c'est la première fois que nous sommes rencontrés. Mais, s'il y a des gens qui m'ont influencé et qui ont évité que je fasse pas mal de conneries politiques avant que je commence à faire de la politique, c'est grâce à des gens comme Castor et à ce groupe qu'il a d'ailleurs nommé Socialisme ou Barbarie, et à mon frère qui, par la bande, faisait par ricochet partie ou lisait cette revue. Et je me trouve un peu dans la situation, pour l'expliciter, d'un marxiste qui lit pendant 100 ans Marx et qui un soir discute avec Marx. C'est pas facile, hein. C'est même trop des fois. Alors c'est pas parce que maintenant Castor est devenu psychanalyste que je veux faire ici, me faire faire une psychanalyse sauvage, mais c'est bien pour dire quand même que dans notre époque où les renégats ont droit à la parole, il suffit d'avoir été une ignoble crapule stalinienne et de dire j'ai quitté pour avoir droit aux médias, n'importe lesquels, de Garaudy à je ne sais pas qui, hein, pour quand même dire qu'il y a des gens comme lui qui n'ont pas et qui ne sont pas si jeunes, comme nous donc, qui ont eu de la chance, parce qu'eux ont fait cette expérience et qu'ils l'ont explicité, de ne pas rentrer dans le Parti communiste, qu'eux sont sortis à une époque et ont dit des choses où justement les renégats d'aujourd'hui qui ont droit à tous les médias n'auraient, rien que pour marquer le coup, qu'une solution, certes pas de rester au Parti communiste ou dans des institutions identiques, mais de la fermer pendant 2-3 ans, rien que pour dire « ouais, d'accord, il faut que je réfléchisse un peu ». Et je crois que dans l'exposé qu'a fait Castor, se matérialise toute l'expérience d'une pensée qui justement ose et a osé pour nous et donc pour moi penser le problème fondamental de la révolution, car le sujet de ce soir c'est banalement nucléaire, écologie et politique, mais là-dessous il y a, et alors les copains, la révolution, oui ou non? Ça veut dire quelque chose ou pas? Ou alors est-ce qu'on devient moraliste, alors à la sauce Glucksmann ou à la sauce machin, dans l'Express ou n'importe? Mais en fin de compte, parce que les Russes arrivent, je ne sais pas où, mais enfin ils sont quelque part. Donc, on en arrive à une position qui est connue dans l'histoire et qui est la défense de l'Occident. Hein, et ça, il faut le dire, et ça je le dis moi-même, parce que je suis profondément touché. Il y a quand même une grande partie de ma génération, et je ne sais pas combien il y en a de ma génération, mais ces fameux 68 ans, qui ont retourné leur veste. Et s'il y a, je crois aujourd'hui, un débat politique à avoir, il est non pas de dire « je retourne ma veste », il n'est non pas de dire « nous n'avons pas fait d'erreur », mais il est de comprendre justement cette question fondamentale qui est si nous, nous avons senti comme un désir et comme un besoin ce changement révolutionnaire, pourquoi des tas de gens ne le sentent pas comme un désir et comme un besoin. Et c'est une question qui n'est pas facile. Et ceux, il y en a qui n'ont pas pu s'arrêter de penser comme ça, mais qui sont devenus fous. Réellement. Et je crois que, justement, quand aujourd'hui on pense projet révolutionnaire, c'est plus aussi facile qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, nous partions allègrement à la conquête du monde en disant, on la connaît tous, la phrase, Cassor, lui, il cite toujours les vieux philosophes, moi je cite une phrase beaucoup plus banale, on disait, du passé, faisons table rase. Il y avait quelques notes là, et c'était très très facile, tagada, 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 on avançait. C'était pas totalement faux. Je veux pas là faire la renier quelque chose. Mais je dis aujourd'hui, moi par exemple, quand je pense à mes premiers pas politiques, c'était très simple. Je faisais des marches anti-atomiques. Mais qu'est-ce qu'on criait là? On disait à bas la bombe atomique, ça on est d'accord, pour l'utilisation pacifique du nucléaire. Voilà. Et oui, et à partir de là, on développait effectivement toute une analyse. On avait, à part cela, des considérations, des banalités de base très simples. La société future telle que nous la voulons, ce seront les conseils ouvriers, ce seront donc, ça sera l'autogestion de la société par elle-même. C'était simple, c'était clair. On ne disait pas, on était naïf, mais pas tellement non plus, on ne disait pas c'est la répression qui empêche les masses de s'autogérer, les masses le veulent. Nous disions, la vie est très compliquée, mais il y a des moments historiques où les hommes, les êtres humains, découvrent leur capacité de gérer eux-mêmes leur vie. Nous lisions Socialisme ou Barbarie, c'était les conseils ouvriers hongrois, c'était les conseils ouvriers allemands, c'était les conseils ouvriers machin. Il y a toujours eu dans l'histoire donc ces exemples de rupture. Et puis il y a eu quand même nos conseils ouvriers, notre rupture que nous avons vécue, qui était donc ce 68. Ce 68 où, à ce moment, effectivement, une société s'est posée des questions. Seulement, en même temps, nous nous sommes aperçus que l'histoire avançant, en fin de compte, aucune société n'a été à la hauteur de nos désirs, et de nos besoins. Alors, de deux choses l'une, ou c'est nos désirs et nos besoins qui sont faux, ou il y a un problème. Je ne sais pas comment le résoudre, c'est là la discussion, mais il y a un problème à résoudre, c'est qu'il y a donc non seulement discontinuité, qui m'intéresse peu, pas du tout ou totalement. C'est-à-dire que je commence à en avoir ras-le-bol des débats qui veulent démontrer que l'on pourrait utiliser la même somme d'énergie en utilisant le solaire. Je crois que là, le département de la défense des États-Unis a cloué le bec à toute une fraction du mouvement nucléaire qui dit c'est vrai, il faut penser dans le désert où il y a les bases militaires américaines, s'ils ne pourraient pas faire fonctionner l'électricité dont ont besoin ces bases militaires par du solaire. Donc des fusées atomiques d'un côté, et puis toute la base fonctionne par le solaire. Donc, en soi, le solaire n'est une réponse à rien. Et d'ailleurs, la plus grande investition en ce moment est faite par les monopoles qui ont compris qu'effectivement, là, il y a pour le futur une possibilité énorme. On peut effectivement, sans changer de type de société, mettre un chauffage solaire de l'électricité sur presque toutes les maisons, dans presque toutes les régions. Hein, la science avançant petit à petit, là n'est pas le problème. Donc, le problème il est, et ça c'est évident, le mode de vie. Le problème du mode de vie, il est, si on veut le poser politiquement, et non pas de dire « moi je vais vivre ma vie quelque part dans un petit coin », c'est possible. Et là je ne veux pas faire de critique à ceux qui le font. De critique dans le sens de « je comprends bien hein, ». On ne peut pas non plus lutter indéfiniment sans vouloir à un moment, sans aspirer à un moment où on réalise sa propre expérience à côté, comme ça, pour prendre l'air ou parce qu'effectivement, on ne peut pas autrement. Mais ça, ça ne changera rien. Le système capitaliste peut tout intégrer. Il a intégré aux États-Unis des alternatives, mais d'une manière absolument fantastique. Je veux dire, il existe une société parallèle aux États-Unis qui, où on peut vivre sans côtoyer une minute sur 24, ni le vilain Carter, ni la vilaine police, ni le nucléaire. Ça, on vit dans son monde à soi. Bon. Et ça, ça ne change pas non plus grand-chose. Et le problème politique, il est comment faire de la lutte, comment faire de notre conception, si nous en avons eu, de notre mode de vie, de placer ce débat sur le terrain politique, c'est-à-dire confronté dans des situations de rupture, confronté les gens avec cet autre mode de vie. Seulement, traditionnellement, pour voir où on va, cela s'appelle quoi ? Ça pourrait être du marxisme-léninisme le plus simple. Hein, les gens n'ont pas conscience du chemin où il faut aller. Nous ayant cette conscience, il faut s'organiser pour faire de la propagande et tout ça. Je crois que là, poser un problème politique qui est, après toutes les expériences que nous avons faites, que ce soit tous les mouvements subjectifs qui ont existé, que ce soit les mouvements culturels, le mouvement des femmes, le mouvement des fédérastes, le mouvement des jeunes, des gosses, etc., nous sommes toujours aperçus, à partir d'un certain moment, que les structures que nous créons se sont cassés la figure, pour le dire simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas et que nous n'avons pas de perspective. Et si je décris ça un peu comme ça largement, c'est que, en fait, fondamentalement, en ce moment, la chose qui me travaille, moi, c'est nom de Dieu. Depuis maintenant, moi, ça fait 15 ans, je fais de la politique. Je fais de la politique avec cette certitude ou cette espérance qu'il y a une possibilité de transformation de cette société dans laquelle je vis. Et en même temps, parallèlement, j'ai des doutes. Et le problème, c'est que ces doutes-là, quand je dis j'ai des doutes, ce n'est pas pour dire je suis sûr que les doutes, en fin de compte, ont raison, mais que je n'ose pas me l'avouer. Non, c'est pas ça. C'est que, en ce moment où effectivement, et là le nucléaire est un symptôme absolument fantastique, c'est que souvent, politiquement, nous avons l'impression d'être sûrs d'avoir raison. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, je me dis, dans notre argumentation, elle est sans faille. Par exemple, sur le problème quand Castor dit « Est-ce que le nucléaire, ça veut dire qu'on ne veut pas l'électricité ?» Non, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut trouver autre chose. Et quand on dit ça, on dit « Effectivement, toute une société, en ce moment, est organisée de telle manière qu'elle a besoin du nucléaire ou d'un substitut au nucléaire. Et que le capitalisme, si Harrisburg explose, demain quelque part d'autre, le capitalisme trouvera un substitut. Parce que le capitalisme a toujours montré qu'il y a une chose, en tout cas, qu'il sait défendre, c'est sa propre subsistance. Et que donc, s'il s'aperçoit, parce qu'il s'en est aperçu dans l'histoire, qu'il fait fausse route technologiquement, etc., il transformera. Ce n'est pas, et je crois, la lutte anti-nucléaire ne doit pas être ce que j'ai appelé tout à l'heure dans la discussion le vieux rêve des trotskistes, c'est-à-dire on fait un programme de transition anti-nucléaire en disant ça, ce système ne pourra pas l'intégrer, et comme les masses en soi ont besoin d'un programme concret, et qu'alors sautant sur cette ligne de programme concret, le système automatiquement se trouvera mis en question. Je crois que le débat est beaucoup plus compliqué. Et je me rappelle, j'ai rencontré par hasard cet été dans un tout petit village, alors, je dis vraiment par hasard parce qu'on va me dire « Ah, ce sont tes fréquentations, non, sur une plage », Lionel Jospin, un des dirigeants du Parti Socialiste Français. Et, il a mon âge, hein. Alors on a commencé à discuter, et c'était fantastique, et je crois que là, j'ai compris tout d'un coup quelque chose. C'est qu'il me dit, alors on discute de la société, du type de société qu'on veut, enfin je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un peu plus de voitures? Vous voulez Renault un peu mieux ou quoi? Quel est votre projet? Il me dit, Danny, ça n'a aucune importance. Ah, je lui dis, tiens. Il dit, tu comprends, tout le problème politique, il est. Il y a dans notre société des inégalités. Je lui dis, c'est vrai. Et tout ce qu'il faut faire, c'est donner l'impression, non pas seulement l'impression, mais avoir un programme pour surmonter ces inégalités. Et donnant donc l'espoir de surmonter les inégalités, nous arriverons au pouvoir. Et une fois au pouvoir, nous poserons les problèmes de la société. Le vieux rêve, on prend le pouvoir et après on dira aux gens, en fait, ce qu'il faut faire. Et je crois que toutes les organisations politiques ont ce rêve. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, et ça, comme le Castor l'a dit, que le capitalisme a fait la conquête des têtes des gens et que aucune stratégie en ce moment n'est arrivée à refaire cette conquête, à reprendre, à libérer ces têtes, alors on fait la conquête de l'institution qui domine ces têtes pour, par la même structure, continuer. Et ça, l'exemple du Portugal à je ne sais pas où, a toujours là. Le système ne fonctionne pas. Il est absolument aberrant de croire qu'un pays passe de 50 ans de fascisme en 3 semaines au socialisme autogéré ou à n'importe quoi. Cela veut dire que dans leur vie, l'on prétend que les gens ne sentent rien, ne vivent rien, ne comprennent rien. Et je crois que s'il y a un exemple historique qui devrait nous faire comprendre, en tout cas, la nécessité de la dimension de la réflexion, et c'est là-dessus que je veux en venir, c'est l'exemple de l'Iran. L'exemple de l'Iran, parce que justement, tous les stratèges de gauche et d'extrême gauche nous ont dit, après la défaite de l'impérialisme américain, au Vietnam, l'impérialisme s'étant restructuré, a créé ce qu'on appelle la trilatérale, vous connaissez ça, hein ? Et cette trilatérale domine le monde. L'Iran, le Shah, était un des piliers de cette trilatérale. Et un vieux barbu, avec des mini-cassettes, a renversé toute la stratégie de la trilatérale. Alors, de deux choses l'une, ou effectivement, la politique, il y a des moments historiques où effectivement la révolution est possible. Parce que ceux qui sont au pouvoir et le système de société effectivement est incapable de répondre pour des raisons historiques aux besoins des gens, mais ces besoins n'étant pas seulement des besoins, un besoin matériel, ces besoins étant ancrés dans la culture, dans la vie de ces gens, alors effectivement le pouvoir le plus fantastique s'écroule comme un jeu de cartes. Et là, je n'ai pas dit un mot de mon adhésion ou pas à l'islam. Ça ne m'intéresse pas à ce niveau. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il y a un processus révolutionnaire, si on appelle révolution, un changement radical de pouvoir, sans qu'il y ait, je ne dirais pas un coup de feu, mais vraiment sans qu'il y ait eu la prise ni du palais d'hiver, ni de la Bastille, et qu'il y a eu des masses de gens qui effectivement ont détruit un pouvoir sans le prendre, ce qui est effectivement un autre problème. Et si aujourd'hui nous mesurons notre problème révolutionnaire, il est bien celui-là, c'est d'être confronté à une société auto-satisfaite et non auto-gérée, qui, effectivement, nous apparaît comme un mur contre lequel nous allons, avec un entrain absolument fantastique, nous casser la figure par vagues historiques perpétuelles, sans être capable d'en tirer des leçons. Et je crois que, effectivement, un des grands problèmes pour nous, c'est comment être capable de faire de la politique, c'est-à-dire de s'organiser, d'essayer de persuader les gens, d'essayer de comprendre, d'essayer de réfléchir, d'essayer de déstabiliser un système social permettant, pour reprendre quand même une des expressions que je dois encore à Castoriadis Lefort, non, il s'appelait Coudray à l'époque, il faut savoir avec lui, hein, c'est-à-dire de créer une brèche où effectivement dans laquelle s'engouffrent des tas de choses et des tas de gens, c'est-à-dire d'avoir un projet révolutionnaire, un projet politique qui est au départ minoritaire, mais qui à tout moment explique ce qu'il fera s'il était majoritaire, c'est-à-dire qu'il se conduise dès le début comme un projet majoritaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Mais très simple, si je crois, et ça c'est un problème très difficile, si je crois que la raison pour laquelle les gens acceptent ce système social, c'est que, il faut être prudent là, mais je crois que c'est parce que il leur apparaît comme étant, d'après tous les projets qu'on leur propose au niveau mondial, comme étant le projet peut-être le plus libre. Et que je crois que, effectivement, nous ressentons cette société comme n'étant pas libre. Parce que nous vivons, effectivement, avec des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire au niveau de cette société. Par exemple, le besoin, très simple, qu'on n'a aucune envie de travailler dans une usine ou dans une école, ou n'importe où, pendant 40, 50 heures par semaine. Je veux dire, s'il y en a qui le veulent, c'est leur problème, mais qu'effectivement, nous avons une conception de la vie, qu'on vaut bien faire un travail utile pendant un certain temps, mais que nous avons l'administration du travail comme étant quelque chose de création, qui dépasse de loin et largement ce que nous pouvons faire dans cette société en étant obligés perpétuellement de gagner notre vie. Mais, et c'est là, je crois, une des raisons pour laquelle on ne peut pas être trop peu ou trop, non, on ne peut pas être trop anticommuniste. Parce que s'il y a vraiment une des raisons pour laquelle les gens dans nos sociétés ne veulent pas changer, c'est parce qu'il y a un autre système contre lequel ils ne veulent pas tronquer leur vie. Et ça, c'est une expérience qui n'est pas, même pas au niveau conscient. Et tous ceux qui ne voient pas ce problème peuvent aller en Allemagne. Ou alors là, c'est effectivement très clair, parce qu'il y a deux Allemagnes, et on peut aller à Berlin-Est, on peut voir ce qu'est le socialisme réel, et si, pour moi, si ma critique de la société capitaliste, de la société nucléaire, de l'État nucléaire, mais soyons sérieux, c'est que la société capitaliste est une société socialiste. C'est-à-dire, c'est une société, prenons les États-Unis, il y a 200 millions d'habitants, il y a 130 millions de personnes qui, grosso modo, gagnent la même chose, bouffent la même chose, regardent les mêmes programmes de télévision, baissent de la même manière, vont dans les mêmes voitures, font n'importe quoi de la même manière, se font chier de la même manière, ont de l'obésité de la même manière et ne savent pas quoi faire de leur vivre de la même manière. C'est l'égalitarisme. Et le rêve, vraiment, des sociétés socialistes, c'est justement de créer ces sociétés socialistes, c'est la peur, et ça le capitalisme et les sociétés dites socialistes ont la même peur, c'est la peur de la différence, c'est la peur de l'individu. Et je crois que si politiquement nous sommes capables, non pas dans un mouvement que j'appelle plus anti-nucléaire maintenant, mais écologique. Donc un mouvement qui se pose tous les problèmes et surtout qui les pose d'une manière simple, non pas dans ce qu'il dit, dans les questions qu'il pose, mais d'une manière formelle très simple, comme un mouvement. Je suis complètement bâtard, des mots allemands maintenant qui viennent, c'est-à-dire qui est en soi contradictoire. Un mouvement, par exemple, anti-nucléaire, qui dit, effectivement, nous avons une critique radicale de la société telle qu'elle est. Nous ne voulons pas vivre dans des familles telles que nous les avons vécues, de la manière de nos parents ou d'autres gens. Nous créons des communautés. Mais nous savons que dans nos communautés, nous créons des besoins, nous avons des besoins de restitution de famille. C'est-à-dire d'être capable de poser nos besoins et leurs propres contradictions qui sont aussi nos besoins. Et je crois que si un mouvement est, et ça j'appelle démocratique, c'est-à-dire capable de montrer que ses besoins, ses critiques de cette société ne veulent pas dire qu'ils ne comprennent pas qu'une vie, que chacun n'a qu'une vie. Et c'est ça, si on veut, le fonctionnement de la masse de tout le monde, mais notre fonctionnement aussi. C'est qu'effectivement, si on discute avec des gens dans un embouteillage, qui va vous dire « C'est mon rêve tous les soirs, les embouteillages. Je serais vraiment malheureux. » Le problème, c'est de dire « Il n'y a pas autre chose. Je paye l'embouteillage pour avoir 4 semaines de vacances. » On se retrouve avec 4 semaines de vacances qui signent de la liberté, et c'est pas ça non plus. Mais c'est difficile, à partir d'un certain moment, d'organiser sa vie quand effectivement il n'y a pas de mouvement social. Et c'est là que ça, on a l'impression que tout se mord la queue. Il n'y a pas de mouvement qui permette les incertitudes des individus, c'est-à-dire que les incertitudes des individus ne peuvent pas ressortir. Dans ces situations de rupture sociale, telles que les grandes ruptures, mai 68, ou les grandes manifestations antinucléaires telles que nous avons pu les vivre en Allemagne, nous nous apercevons tout d'un coup qu'effectivement les incertitudes existent. Exemple, à Gorleben en Allemagne, où devrait se construire la grande usine de retraitement de déchets. C'est un coin vraiment catho qui allait à 70% toujours aux élections pour les chrétiens démocrates. Ces gens-là, pour des raisons des fois absurdes, hein, on entend des phrases comme « Sous Hitler, on n'aurait jamais eu de centrale nucléaire hein ». Je veux dire, donc, c'est pas si simple. Hein. Bon, eh ben, on discute avec des paysans. Ces paysans découvrent des chevelus, découvrent des communautés. Tout d'un coup, qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis contre celui pour qui j'ai voté. Je me retrouve avec des chevelus contre qui j'ai toujours pesté. Et se posent des questions. Là, il y a une possibilité, effectivement, de dépasser quelque chose. Mais à ce niveau, je crois qu'aucun mouvement n'est encore capable. Et ce n'est pas seulement nous, même le paysan n'est pas capable en ce moment. C'est d'accepter cette différence comme telle, d'abord. De la laisser cheminer. Et tout mouvement politique accepte comme point de départ la différence, mais c'est pour la surmonter. C'est ce qu'on appelle politiquement dialectique. Et justement, laissons avant de les surmonter, ces différences, les possibilités qu'elles s'expriment pour qu'une subjectivité politique puisse se trouver. Et dans le débat, peut-être que je pourrais clarifier un peu, je crois que les alternatives telles que nous les construisons, telles que nous essayons de les initier. Le mouvement écologique détermine les limites du champ de l'utopie, détermine le cadre dans lequel notre utopie veut ou essaye de s'exprimer. Mais en même temps, dans la confrontation politique telle qu'elle est donnée aujourd'hui, je crois qu'il faut être très prudent avant de taxer quelqu'un de progressiste ou de conservateur, de réactionnaire, de réformiste ou de révolutionnaire. Je crois que, justement, le mouvement antinucléaire est tellement complexe. C'est vrai dans ce qu'on dit, ce qu'a dit Castor, c'est qu'en Allemagne, dans le mouvement, il y a des fascistes dans ce mouvement. Il y a un retour, ce qu'on appelle Blut und Boden, il y a une tentative, justement, de créer, de renouer avec cette identité perdue qu'avait donné le fascisme au peuple allemand. Car le fascisme, ça aussi c'est un problème qu'il faudra une fois essayer de comprendre. Il n'est pas venu d'en haut par hasard. Le fascisme a été l'expression d'un peuple qui n'avait plus d'identité et qui a sauté sur la fosse. Mais le problème qu'il y avait derrière, c'était cette recherche d'une identité. Et ce n'était pas donc les mauvais 10 000 capitalistes qui ont mis la main sur le peuple allemand. C'est parti d'en bas. Aujourd'hui, le même Hitler, les mêmes capitalistes n'auraient aucune chance en Allemagne. Aucune. Seulement, et là je voudrais donner sur le fascisme un exemple de ce que j'appelle agir comme majoritaire. Je crois qu'en tant que juif, personne ne peut me soupçonner d'être pro-fasciste. Seulement, moi, je suis pour la liberté d'expression des fascistes. Et j'en ai ras-le-bol. Des gens qui disent « Liberté pour tout le monde, sauf pour les ennemis de la liberté. » Car ça, c'est la phrase qui nous fera tous passer au village un jour ou l'autre. clair. Si les fascistes distribuent des tracts, nous répondons par des tracts. Si effectivement ils veulent jouer à d'autres jeux, nous leur casserons la figure aussi. Le problème n'est pas d'être, de tendre une joue et de dire « Allez-y les enfants, nous sommes tous des chrétiens ». Non, pas du tout. C'est de défendre des choses que nous avons apprises politiquement. Et je crois que sous l'exemple qu'avait donné Castor, le problème de ceux qui veulent des centrales nucléaires, il est très simple à résoudre. Il est très simple à résoudre si effectivement s'institue dans la société, si nous étions majoritaires, les possibilités d'un débat. Et là est la critique que nous avons à cette société. Et je crois que le mouvement antinucléaire, le mouvement écologique doit essayer de conquérir tous les terrains qui le mettent en position de débat à tous les niveaux contre ceux qui dominent les débats en ce moment. Je crois que toute politique qui justement ne tente pas, non pas de partir à la conquête des têtes, mais qui ne tente pas de toucher les têtes, va à l'échec. Et si en ce moment nous parlons tellement d'autonomie, de création, nous parlons de qu'est-ce que c'est que cette autonomie, nous devons, d'une manière exemplaire, démontrer dans nos stratégies notre capacité dans le mouvement de créer des individus autonomes. Et ça nous différencie totalement de la théorie révolutionnaire traditionnelle. Car lisez Trotsky et vous verrez toujours qu'il parle des masses comme des champs de blé qui vont d'un côté puis d'un autre, et alors, et puis l'international qui croise le fer avec l'impérialisme et tout ça, il se voit toujours aux commandes, et derrière il y a des millions et toutes les images que nous avons des années 20 de la classe ouvrière, c'est un ouvrier qui ressemble à l'autre et une femme qui ressemble à l'autre. Eh bien non, il y en a marre de ça. Et si effectivement notre mouvement, non pas seulement donne l'impression que l'un ne ressemble pas à l'autre, mais que nous sommes réellement différents et que dans cette différence nous arrivons à faire de la politique, eh bien moi je dis, alors là effectivement nous mettrons en danger ce système social parce qu'il prétend justement défendre la liberté individuelle. Et sur ce terrain-là, aucun mouvement n'a essayé justement de le mettre en question. Nous avons toujours dit, ce ne sont que des libertés formelles. Nous voulons des libertés réelles. C'est autre chose qu'il s'agit de dire. Il a dit, vous avez fait une partie du chemin et vous avez un système social qui empêche non pas le développement des forces de production, parce que ça alors, merci, vous y êtes bien capable, mais qui empêche le développement des individus. Et là, nous vous remettons en cause. Et je crois que ça, c'est un discours qui pourrait être entendu. Bon, il faut discuter de ça.